Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
6 minutes pour trancher.
8h22, bonjour Boris Razon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes journaliste spécialiste des médias numériques et co-auteur avec Étienne Huvert des Nouvelles Guerres sur la piste des hackers russes qui paraît aujourd'hui même chez Stock. C'est une coédition avec Arte. Le documentaire d'ailleurs sera diffusé le 7 mai sur la chaîne. Par définition, des hackers sont quasiment invisibles, que ce soit pour le grand public comme pour beaucoup d'autorités. Comment avez-vous réussi à les approcher et qui avez-vous contacté?
En fait, ça a été une longue enquête qui a pris de 18 mois à 2 ans. C'était évidemment très difficile de les approcher, très difficile de les contacter. Et ça a été un chemin qui est passé d'abord par des hackers français et des hackers blancs, c'est-à-dire qui défendent entre guillemets le bien, qui protègent les entreprises ou les États. Et on s'est approché de plus en plus de la zone grise, avec un lieu où, au fond, tout ça s'est cristallisé, qui est l'Ukraine, qui est aujourd'hui à la fois une ligne de front de guerre.
Alors vous employez ce terme, vous parlez de ligne de front, en fait ça veut dire qu'on est dans une guerre numérique objective selon vous aujourd'hui?
On est dans une... En fait le numérique induit un changement de la guerre, on est dans un conflit permanent et invisible entre presque tous les États. Le numérique est devenu un outil de la guerre, un outil de la surveillance et de l'espionnage, et parfois, comme ça a été le cas en 2016, ou comme c'est le cas très régulièrement en Ukraine, d'opérations d'influence ou de sabotage.
Je vous cite, quand il n'y a pas de règles, elles peuvent toutes être violées. Tout est donc permis.
Alors, vous citez même le conseiller à la cybersécurité de Vladimir Poutine, M. Chigolev, qui dit ça. Et oui, c'est le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles dans l'univers, dans la politique internationale, il n'y a pas de doctrine, alors qu'il y a de nouvelles armes qui sont nées et qui sont utilisées partout.
Alors la grande question c'est qui sont les donneurs d'ordre? Puisque finalement d'une certaine façon, le débat finit toujours par se cristalliser sur ces questions, et pour qui travaillent-ils?
Il est, d'un point de vue technique, strictement impossible de trancher la question, parce qu'il n'y a pas de, dans l'univers numérique, il n'y a pas de preuve technique, tout peut être falsifié. En revanche, il y a évidemment un faisceau d'indices qui tend à prouver, ou du moins à laisser penser, que la Russie joue des cartes géopolitiques fortes en utilisant l'arme numérique. C'est le cas en Ukraine presque tous les jours. Ça a été le cas aux États-Unis en 2016 et le rapport Mueller laisse penser vraiment que ça a été une ingérence forte dans l'élection.
Quand vous parlez de faisceau d'indices, est-ce qu'on peut être plus précis?
Alors,
on ne l'est jamais complètement et vous l'expliquez très bien. Mais alors,
non, mais en fait, si je prends l'exemple de l'élection américaine, au fond, vous avez une première manœuvre qui est celle qui a permis, en envoyant un mail aux démocrates, enfin au DNC, d'entrer à l'intérieur du réseau informatique, d'extirper toutes les données et de s'en servir. Or, ils s'en sont servis de deux manières. D'une part, en donnant des informations aux journalistes qui, évidemment, s'en sont servis. Et ça fait réfléchir sur notre profession. Par ailleurs, utilisant des trolls qui étaient dans une ferme à trolls de l'Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, qui eux-mêmes ont joué sur Facebook des informations qui allaient plutôt dans le sens de l'aide.
Vous nous rappelez ce qu'on appelle des trolls?
Les trolls, c'est des gens qui ont une activité forte sur les réseaux sociaux et très orientée, et qui provoquent le débat de manière relativement hystérique.
Et qui lui donnent une dimension.
Et qui lui donnent une dimension. Exactement. Ils ont utilisé des robots, ils ont créé des vidéos. Donc, l'opération américaine, c'est des centaines de personnes, en fait, qui travaillent dans le temps pour essayer. Alors, probablement, pas forcément de faire élire Trump, mais de déstabiliser Hillary Clinton et de jeter un trouble dans l'élection. Parce qu'au fond, le résultat le plus fort, c'est qu'on a aujourd'hui la plus grande démocratie au monde, dont on ne sait pas si l'élection a été juste ou pas.
Vous parlez d'ubérisation de la guerre. Alors, c'est très intéressant parce que on voit bien le contact, mais je veux bien que vous alliez un petit peu plus loin.
Au fond, ce qui se passe, c'est que si on dit que l'ubérisation, c'est la survenue de nouveaux acteurs, au fond, vous avez aujourd'hui énormément d'acteurs dans cette espèce de conflit qui ne dit pas son nom. Il y a les États, bien sûr, mais il y a aussi les grandes entreprises qui ont un rôle à jouer, à la fois défensif et parfois offensif. Vous avez des petits pays. Parce qu'aujourd'hui, la Corée du Nord, l'Iran...
Israël,
exceptionnel pays en matière de numérique, et elle tire sa force numérique d'une unité militaire. Au départ.
Alors, c'est très intéressant parce que ça amène une autre notion que vous évoquez, qui est celui aujourd'hui du rôle de l'argent. D'abord, il faut se les payer, les hackers. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour quelqu'un, ils gagnent des sous à un moment ou à un autre. Est-ce que ça traduit par ailleurs la baisse du pouvoir des États? Parce qu'on comprend très bien en vous lisant aussi que, par exemple, on a des gens très doués en France dans ces domaines-là, mais ça doit être difficile pour eux de résister en travaillant au service de l'État, aux appels du privé X ou Y, voire de gens mal intentionnés, tout simplement parce qu'il y a des sommes en jeu qui sont faramineuses.
Absolument. L'argent est un vrai sujet. Typiquement, dans une conférence de l'OTAN, un des directeurs du Homeland Security américain disait « J'ai un problème, je ne peux pas payer mes hackers le même prix que les GAFAM, que Microsoft, que Facebook. » Et c'est une vraie difficulté. D'autant que, et ça c'est assez intéressant, la NSA a subi des attaques et a dû enquêter sur ses propres experts en cybersécurité, qui l'ont vécu très mal, comme s'ils étaient traités comme des traîtres, et qui sont partis dans les grandes entreprises, parce qu'en fait, c'est un marché. C'est un marché, à la fois le marché ouvert des hackers blancs, et puis il y a un autre marché, celui de la cybercriminalité.
Donc il y a une redistribution des cartes géopolitiques, c'est-à-dire que les États ne sont pas que ce que nous connaissons depuis 1945, pour dire les choses simplement. Aujourd'hui, il y a des rapports de force où les mieux armés ne sont pas forcément ceux que l'on croit. D'où ces petits pays qui émergent, entre autres, et la Russie, qui a pas une économie florissante non plus, mais qui est très active dans ce domaine.
Absolument, c'est exactement ça. Ça redéfinit la carte géopolitique. La Russie la Russie, elle a une démographie très faible, une économie qui ne va pas bien, et en fait, elle s'est rendue compte qu'avec le numérique, elle pouvait redorer son blason et avoir l'air d'une puissance très offensive et très efficace.
A-t-on des raisons d'être inquiet à l'orée des élections européennes, alors qu'on sait très bien que les trois grandes puissances mondiales, chinoises, russes et américaines, ont intérêt à déstabiliser l'Europe?
C'est très difficile à dire. Ce qui est évident, c'est que des hackers de chacun des pays sont dans les réseaux des autres pays. C'est une activité qui a lieu depuis maintenant 10 ans, d'espionner, d'être présent dans les réseaux, d'être infiltré, c'est important. Après, de savoir jusqu'où ils vont aller, c'est impossible de le savoir. En revanche, ce qui est important, la vraie inquiétude, c'est de se dire, est-ce que face à ces nouvelles armes, il ne serait pas temps d'avoir une régulation, une doctrine, comme on en a eu quand l'arme nucléaire est apparue?
C'est possible, selon vous?
C'est souhaitable. C'est peut-être possible parce que d'un coup, des acteurs qui jusque-là ne souhaitaient jamais de régulation, comme les grandes entreprises Microsoft ou Facebook, la demandent désormais.
Ben oui, mais quand on arrive à peine à taxer les GAFA, comment faire pour mettre en place des règles internationales qui encadrent une grande partie d'un espace qui est largement noir et gris?
Absolument. C'est extrêmement compliqué. La Chine et la Russie s'y opposent de manière ferme. Les États-Unis n'y sont pas très favorables non plus. Et pourtant, on sent bien, et tous les experts le disent, la catastrophe n'est pas loin.
Vous avez rencontré un cybercriminel, je ne sais pas si je prononce bien son nom, rencontré, vous êtes rentré en contact avec lui.
Oui.
Ça prend combien de temps pour arriver à parler à Zi?
Zi, ça a pris pas mal de temps, et il a fallu être en Russie pour pouvoir juste entrer en contact avec lui et le voir via Skype. Ça a été très long, et qu'il se sente suffisamment en sécurité juste pour nous parler, sachant qu'il avait un masque sur le visage. Oui, ça a été compliqué. Et en plus, il a joué pendant l'entretien, et ça se voit bien dans le documentaire, le chaud et le froid, mentant un peu sur son âge, mais au fond, on avait l'impression qu'il nous disait quand même la vérité. Et parmi ce qu'il disait, c'est « il y a un endroit qu'on n'attaque jamais, c'est la Russie ».
Le documentaire est à voir le 7 mai chez nos confrères d'Arte. Merci beaucoup Boris Razan. Et je rappelle donc votre livre « Les nouvelles guerres sur la... »